Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Campus dans l'émission Vacarment Réunion. L'émission qui, deux fois par mois, vous parle du quotidien de nos suffocantes métropoles. Alors, cette semaine, on va vous parler de Jean-Marc Rouillant, qui était à Dijon, et avec qui on s'est un peu entretenu, et puis de la prison. Et comme il paraît qu'on est écouté au mitard dans la prison de Dijon, et ben, bonne chance à tous, gardez la pêche. Et puis, tout de suite, on commence avec Kyle, qui nous parle de la fête d'automne au potager des Lentillères.
Ouais, ce week-end, à partir de ce soir jusqu'à dimanche soir, il y a la fête au Jardin des Lentillères. Et c'est pour fêter l'automne, la fin des récoltes, le marché. Et pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, c'est un terrain qui a été pris à la mairie il y a quelques années pour cultiver, mais c'est aussi tout un espace où des gens vivent, construisent et font la fête. Les gens qui, pour les gens qui ne connaissent pas, bah, ils n'ont qu'à passer voir. Du coup, au programme, ce soir, il y a... des projections, du théâtre, il y aura des pizzas à manger, aussi un opéra. Samedi, il y a des visites qui sont organisées et divers chantiers, notamment pour répandre du fumier et des ateliers dessin. Il y aura aussi un super concert qui va finir, je pense, super tard et avec une boum à la fin du concert. Et dimanche, il y a encore tout un tas d'activités. Voilà, ça se passe au 45 rue Philippe Guignard.
Oui, donc on disait ce soir, mais c'est parce qu'on n'enregistrait pas en direct et l'émission ne passera que dimanche. Mais dimanche, allez à la fête quand même. D'ailleurs, moi, je pense que je vais aller y faire un tour. Donc, comme je disais juste avant, Jean-Marc Rouillant était à Dijon donc, le week-end dernier pour présenter son livre Tricard. Alors, ce terme de Tricard, là, il vient d'un autre livre qui est un livre de Le Breton qui a été écrit en 77. Et qui définit en fait les interdits de séjour. Et donc ça, c'est une situation qui est bien connue de Jean-Marc Rouillant, hein, puisqu'il est interdit de séjour dans, je ne sais plus, une quarantaine de départements en France. Et voilà, et son livre nous parle donc de sa rencontre depuis la sortie de prison, de sa rencontre quotidienne avec le monde libre, le monde militant, le monde associatif, le monde culturel, et l'impression que ça peut produire sur un individu qui a passé une trentaine d'années de sa vie en prison. Alors c'est un livre plutôt engagé, hein, qui donne un regard assez intéressant parce qu'il nous communique l'étrangeté que peut produire de nombreuses années de détention. Les discussions qu'on a eues avec lui, c'était des discussions autour de la prison. Et on va d'ailleurs vous laisser écouter la première discussion à laquelle on a assisté.
On essaye de briser dans les nouvelles prisons la socialité. C'est l'essentiel et la communication entre les prisonniers. C'est le but essentiel des syndicats de Maton. Et quand je dis que la prison arrive à sa fin, ça n'a pas empêché, par exemple, que quand ils ont décidé de fermer le bagne, pendant 10 ans, ils ont continué à charger les bateaux à mort vers le bagne de Cayenne. La semaine qui a suivi le vote d'abolition du bagne, en 34, ils ont chargé à bloc 2 bateaux qui sont partis à Cayenne. Et tous les relégués qui ont été envoyés durant les 6 ans d'abolition du bagne, il y en a seulement 2 sur 10 qui sont revenus vivants, pour dire le taux d'extermination. Cayenne était considéré par les Allemands, par les Américains, au même degré d'extermination que les camps de concentration nazis. Il considérait que la France produisait une politique d'extermination de pauvres, officiellement des délinquants, mais il faut se dire qu'ils n'ont pas exterminé que des délinquants à Cayenne. On allait chercher les orphelins majeurs qu'on trouvait un peu bizarres dans les orphelinats et on les envoyait directement à Cayenne. Et ces mecs sont canés dans les camps, d'ailleurs, les camps sur le Maroni qu'on appelait les camps de la mort, c'est-à-dire où les mecs bossaient souvent avec de l'eau jusqu'au ventre et bien sûr ils étaient piqués par les serpents, ils crevaient des scolopendres qui sont terribles dans le Guyane, etc., etc. Et ça allait rapido. Et donc la Guyane a arrêté d'être pour les Américains des camps d'extermination quand les gaullistes ont choisi le camp des alliés. Donc là on a levé un peu le pied par rapport aux Français. Mais c'est vrai que en moyenne 7 à 8 détenus sur 10 crevaient avant la fin de sa peine. Voilà. Mais ça n'a pas empêché, c'est-à-dire comme aujourd'hui, de dire bon, tous les bourgeois, tout l'élite de pouvoir sait que la prison ne sert à rien, qu'elle sert qu'à une situation de gagner du temps en enfermant les mecs. Au niveau de la récidive, elle est catastrophique. C'est-à-dire que quelqu'un qui reste à l'extérieur, un jeune qui reste à l'extérieur peut s'en sortir, un jeune qui rentre dedans, il est 6-7 sur 10 automatiques d'une carrière de délinquance habituelle. Donc, pour la violence entre les détenus, la violence des matons, ils connaissent ce que je vous raconte, moi, ce que j'ai écrit dans les livres, ils sont au courant, il y a des enquêtes là-dessus, ils sont parfaitement au courant de ce qui se passe. Dernièrement, il y avait un petit jeune dans un quartier populaire de Marseille qui m'a dit « Tu as vu beaucoup de morts, monsieur ?» parce qu'on m'appelle monsieur, c'est respectueux. Il m'a dit « Tu as vu vachement de morts en prison, tu as vu des morts, combien de morts ?» Combien ? Il posait la question « Combien ?» J'ai dit « J'en ai vu, ouais, un certain nombre. » Puis après, quand je suis rentré, je sais que quand on est dehors, qu'on a vu un cadavre, on sait qu'on l'a vu. Qu'on a eu un accident avec deux cadavres, on les a vus, on s'en souvient. Ben moi, je suis incapable de dire combien de morts j'ai vu en 25 ans de prison, combien de mecs par terre, allongés sur une coursive, à coups de couteau, frappés à mort par les matons, je ne m'en souviens pas. Donc, je peux pas vous dire j'ai vu tant de morts. Quand on me dit, ouais, tu te souviens celui qui est mort, là, ça me revient à l'esprit des fois. Parfois, il y a des coursives entières porte par porte, je sais qui est mort, comment il s'est suicidé, celui-là s'il est mort dans une bagarre, si... effectivement. Mais je peux pas dire le nom. Donc, c'est pour montrer combien la violence dans la prison est importante. Surtout dans les prisons de haute sécurité, ou dans les quartiers des hommes. C'est une mortalité, vraiment, ces prisons-là, les prisons effectives limitées de haute sécurité et quartiers d'isolement, sont des zones de tellement dangereuses qu'on ne peut pas calculer si on va tenir un an, si on va tenir deux ans, etc. Parce que la prison aussi est le reflet de la société à l'extérieur et qu'il y a beaucoup d'individualisation. Il y a très peu de mecs qui, au départ, sur les mouvements de... Même dans les centrales de haute sécurité, quand on faisait du blocage, quand on faisait des tentatives d'émeute, ou... d'autres mouvements ou les grèves ou les grèves de plateau, etc., etc. C'était vraiment l'unité totale et progressivement on a vu une partie de la population qui préférait rester s'enfermer en cellule et ne plus participer au mouvement collectif. C'est terrible parce que déjà que par nos luttes, c'est-à-dire par les émeutes, on a fait réduire le temps de mi-tard à 90 jours, c'est-à-dire 45 jours, une journée dehors, une autre fois 45 jours, déjà ça, tu perds 5 kilos, parce que t'as pas becté, t'as plus qu'une demi-heure de promenade, tu sors du mi-tard complètement la peau translucide, avec des cernes sur les yeux et amaigri.
Dans le Le livre d'Etario, Chronique de l'environnement, qui s'est battu dans les années 80-90 en Espagne, en les quartiers d'isolement spécial.
Ouais, les FIES. FIES s'appelle, non ?
FIES.
Ouais,
FIES. Il y a beaucoup le rapport à la séropositivité, le nombre de prisonniers et de prisonnières qui sont séropositifs. Et ce rapport à comment ils sont libérés quelques heures ou quelques jours avant de mourir en phase terminale. Je voulais savoir, toi, à travers ton expérience de la prison, comment tu avais eu ce rapport à une personne séropositive.
Au moment du plus haut de l'épidémie, c'est-à-dire 88, l'épidémie carcérale, parce que le nombre de détenus qui sont morts, c'est incalculable. Je faisais une très longue grève de la faim, donc j'étais à l'hôpital de Fresnes. Et j'étais placé au-dessus de la porte d'entrée. À l'intérieur, hein. Je n'avais pas un balcon sur l'extérieur. Mais c'était vraiment dramatique parce que chaque matin, il partait deux ou trois cadavres dans des sacs plastiques et emmenés dans des ambulances. C'est-à-dire qu'ils commettaient un délit d'abord. Bon, ça montre la mortalité. Et je pouvais discuter avec le curé, c'était la seule personne qui pouvait me visiter, qui venait. Et il me racontait, c'est incroyable le nombre de mecs qui sont morts durant cette période. Incroyable. Et c'est un délit que commettait l'administration pénitentiaire parce que on montait les cadavres, au lieu de les monter dans des véhicules prévus pour porter des cadavres, on les montait dans les ambulances parce que les mecs étaient hors d'écrou. Quand tu es transporté en hôpital, tu n'es plus sous écrou. Donc, la majorité des citoyens sont morts pendant leur transport à l'hôpital, officiellement. C'est-à-dire qu'ils ne rentraient plus du tout dans aucune des statistiques de la pénitentiaire. On ne sait pas, aujourd'hui encore, on ne sait pas combien de détenus sont morts durant cette période, surtout au 90 jusqu'au. Je reviens jusqu'à la mise en place des trithérapies à l'intérieur des prisons.
Au final, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui en profitent et qui font du pognon sur les prisons, Sodexo.
Ah, ça, oui.
Du coup, c'est quand même des trucs qui, même si l'État en lui-même, il récupère pas, peut-être, c'est pas un truc super rentable pour l'État. Enfin, il y a quand même plein d'entreprises, du coup, qui ont un peu la main mise sur les prisons.
Tu sais, le BAN, il était rentable aussi pour l'État. Il était super rentable pour l'État. Les galères étaient super rentables pour l'État monarchiste.
Du coup, est-ce que c'est pas une question justement politique, là, de électoraliste et...
Globalement, dans nos pays, comme en Allemagne ou les pertes pour l'État sont considérables dans le maintien des prisons. T'as certains pays qui arrivent à faire payer maintenant la cellule au mec. La location de la cellule. Moi, je peux te parler de l'expérience du bracelet, parce qu'on a été dans les premiers à avoir ce truc-là horrible à la cheville, en sachant que le développement des bracelets, qui est totalement une des technologies d'abord militaires, produit par trois pays fabricants de canons, Israël, les États-Unis et l'Angleterre, la technologie est en train d'exploser. Peut penser que le GPS individuel sera au point très rapidement, c'est-à-dire que non pas ils pourront pas surveiller si tu es chez toi à telle heure ou pas, mais qu'ils pourront te surveiller minute par minute dans tes déplacements, t'écouter. Ils t'écoutent en permanence. Et troisième point, ils vont passer au bracelet sous la peau. C'est un bracelet. Et ce truc est relié à une borne que tu as chez toi.
Qui potentiellement peut être une borne qui permet une écoute.
Bah ouais, parce que tu as un combiné, tu appuies sur un bouton et tu leur parles directement. Ouais. Et donc eux, ils peuvent te retourner ça et t'écouter pendant que tu es chez toi. Tu as une autonomie à peu près, tu as une distance de 15 mètres autour de cette borne. Donc il faut qu'à une heure fixe, tu sois là et jusqu'à une certaine heure que ta borne. Si tu sors à un moment où tu n'es pas à l'heure prévue par le juge, elle sonne. Donc, tu es en constante permanence. Et puis, ce qu'il y a d'impressionnant, c'est que quand tu as été longtemps en prison, que le soir, tu t'enfermes toi-même. C'est-à-dire, tu n'as même pas la fermeture et le bonsoir du maton. C'est-à-dire, tu vas te fermer chez toi, tu mets tes verrous, et c'est toi ton propre maton. Parce que rien, à part arracher, tu vois, tu arraches le truc, rien ne t'empêche physiquement de sortir, quoi. D'être... c'est toi, c'est une autodiscipline. Et t'es rentable parce que tu dois avoir une piole, tu dois avoir une ligne téléphonique, donc tu bosses pour eux, obligatoire. Donc t'as une grosse partie de ton salaire qui va à l'administration pénitentiaire et à la justice. Bon, c'est tout, et tu te fais à bouffer toi-même, c'est-à-dire que t'as même pas la seconde fois. C'est toi qui te fais à bouffer. Donc, moi je pense que c'est ce qu'il prévoit de faire, et d'y mettre plus que 60 000 personnes. Quand on dit qu'il y a 60 000 prisonniers, c'est complètement idiot. Il y a 200 000 prisonniers en France aujourd'hui. Parce que t'as la semi-liberté, t'as les bracelets, t'as toute une série de mesures, et donc, ils sont passés quand même en 30 ans, de 30 000 personnes détenues à 60 000 détenus aussi prisonniers, mais en plus 140 000 personnes qui sont sous mandat sous écoute. Dans les années 70, on voulait pas t'amener en prison, donc il ne restait plus que le sursis, l'approbation, le sursis. Maintenant, tu as toute une chaîne de peines et donc aussi une forme de semi-liberté, parce que en France ça existe aussi, il y a énormément. Ils ne peuvent pas, parce que développer autant que ça la semi-liberté, parce que c'est aussi des classes, des cellules. Ils sont obligés de te donner avec eux le soir. Donc, vraiment, la solution de la surveillance électronique, c'est un truc qu'ils envisagent de généraliser, mais alors, à haute de. Et en sachant que bientôt, comme je le disais, ils en sont à prévoir les puces. Donc le prisonnier, c'est vraiment de la science-fiction. Tu auras des bornes dans les rues de contrôle de mecs sous puces. On va à grande vitesse vers la société où la prison sera disséminée dans la société. Quand on est un détenu, c'est pas l'important, les cafards, les rats. L'important, c'est la socialité, ce que tu produis avec les autres détenus. C'est comment tu peux bouger dans la prison, s'il y a un rapport, quel est le rapport de violence avec les matons. À Fresnes, le rapport de violence des matons est le niveau le plus haut. Donc les détenus vont essayer d'éviter ça. Dans les prisons modernes, par exemple, vous avez la douche en cellule. Ça, c'est un confort, la douche en cellule. Ça peut paraître un confort. Mais si tu as la douche en cellule, tu n'as pas la sortie pour aller discuter avec tes potes, pour aller quand tu vas prendre la douche. Et donc dans toutes les constructions de nouvelles places, c'est eux qui ont le dessus. C'est eux qui imposent une vie quotidienne pour leur facilité aussi. Par exemple, les douches, c'est pas seulement pour détruire notre socialité. Bon, la douche, c'est pour en foutre le moins possible. C'est pour en foutre le moins possible. Ils passent des journées assis sur des chaises. Et ils voudraient pouvoir rester avec leurs potes, jouer aux cartes, et ne pas sortir les prisonniers pour le moindre mouvement. Et on le sait, que pour les professeurs toujours gueulent parce que les matons n'amènent pas parce qu'ils en ont rien à foutre. Qu'on fasse des études ou qu'on aille aux activités. Ils veulent bloquer tous ces trucs-là. Et si on pouvait rester en cellule 24 heures sur 24, ils nous mettraient un petit balcon grillagé, mais alors vraiment avec des gros barreaux, une fenêtre considérée comme promenade, ils le feraient. S'il y a enterré vivant des mecs, ils le feraient. Donc chaque fois qu'on parle de construction de nouvelles prisons, on arrive à des situations de durcissement du quotidien des prisonniers, et non pas d'une amélioration.
Bon voilà, donc c'était la discussion qu'il y a eu avec Jean-Marc Rouillant samedi dernier. Alors Jean-Marc Rouillant, je le présente maintenant, là, c'est un ancien membre d'Action Directe, hein, puis qui a pris 28 ans de prison pour les faits qui lui ont été reprochés, c'est-à-dire la participation à différents groupes de lutte armée dans les années 70-80. Voilà, alors maintenant on va se pencher un peu sur autre chose, on va voir une nouvelle de Kafka, qui traite un peu de cette question de la prison aussi. Et parce que des fois, pour mettre en scène l'absurdité d'un jugement, il n'y a pas mieux que le recours à la fiction. Et ben, c'est à travers cette nouvelle qu'on va essayer de décrypter un peu ce que c'est que le jugement qui peut conduire à la sentence. Donc, La colonie pénitentiaire de Kafka a été écrite en 1914. Hein, elle a été écrite 2 mois après le début de la Première Guerre mondiale, donc dans un contexte très particulier. Et cet ouvrage, c'est une description du fonctionnement d'une machine d'exécution dans la colonie pénitentiaire. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est, la colonie pénitentiaire. Hein. C'est un endroit un peu mystérieux. Et cette machine donc, d'exécution, c'est un instrument de torture qui tatoue à mort la sentence dans la chair du condamné. Cet ouvrage, c'est aussi un ouvrage magnifique et très puissant parce que prophétique. Parce qu'il montre que les gouvernants n'ont pas besoin d'exister pour régner avec cruauté. Ici, par exemple, l'ancien commandant, qui est l'inventeur de la machine, bien qu'ayant été enterré tel un chien, a laissé une signature durable dans l'organisation de la vie et de la mort au sein de la colonie pénitentiaire. Donc on va écouter l'extrait tout de suite, après un petit passage du film de L'évadé d'Alcatraz, de Don Spiegel, qui est réalisé en 1979.
Des fois, j'en ai le cœur qui se soulève. Nous, on compte les heures. Les matons nous comptent, ensuite les chefs matons comptent les comptes.
Terminé, on rentre.
Les termes de notre sentence n'ont rien de sévère. On inscrit avec la herse, sur le corps du condamné, le commandement qu'il a enfreint. Par exemple, à ce condamné, l'officier montre à l'homme, on inscrira sur le corps, ton supérieur honorera. Le voyageur jeta vers l'homme un regard rapide. Il tenait, au moment où l'officier le désignait, la tête baissée et semblait tendre l'oreille de toutes ses forces pour saisir quelque chose. Mais les mouvements de ses grosses lèvres serrées manifestaient clairement qu'il ne comprenait rien. Le voyageur avait diverses questions à poser, mais à la vue de l'homme, il demanda seulement.
« Connaît-il sa sentence ?»«
Non, » dit l'officier qui entendait reprendre aussitôt le cours de ses explications. Mais le voyageur l'interrompit.
Il ne connaît pas sa propre condamnation.
Non, répéta l'officier qui s'arrêta un instant comme pour demander au voyageur de motiver plus précisément sa question, puis reprit. Il serait inutile de la lui annoncer, il va la prendre à son corps défendant. Le voyageur s'apprêtait à se taire quand il sentit le condamné tourner vers lui son regard. Il paraissait demander s'il pouvait souscrire à la description faite. Aussi, le voyageur, qui s'était à nouveau carré dans son fauteuil, se pencha-t-il de nouveau et demanda.
Mais qu'il est condamné, il le sait tout de même.
Non plus, dit l'officier en souriant au voyageur, comme s'il s'attendait encore de sa part à quelque déclaration étrange.
Non, dit le voyageur en se passant la main sur le front. Ainsi, cet homme ne sait toujours pas comment sa défense a été reçue.
Il n'a pas eu l'occasion de se défendre, dit l'officier en détournant les yeux comme s'il se parlait à lui-même et ne voulait pas gêner le voyageur en lui racontant ces choses qui pour lui allaient de soi.
Il a bien fallu qu'il ait l'occasion de se défendre, dit le voyageur en se levant de son fauteuil.
L'officier comprit qu'il risquait fort d'être interrompu pour longtemps dans ses explications concernant l'appareil. Il alla donc vers le voyageur, le prit familièrement par le bras, lui montra de la main le condamné, qui, comme à présent l'attention se fixait manifestement sur lui, se mettait au garde-à-vous. D'ailleurs, le soldat lui tirait sur la chaîne, et il dit « Les choses se passent de la manière suivante. J'exerce ici, dans la colonie pénitentiaire, la fonction de juge, en dépit de mon jeune âge. Car j'assistais déjà l'ancien commandant dans toutes les affaires disciplinaires, et c'est également moi qui connais le mieux l'appareil. Le principe selon lequel je tranche est que la culpabilité ne fait jamais de doute. D'autres tribunaux peuvent ne pas se conformer à ce principe, car ils comptent plusieurs juges et ils ont de surcroît, au-dessus d'eux, des tribunaux d'instance supérieure. Tel n'est pas le cas ici, ou du moins, cela ne l'était pas sous l'ancien commandant. Il est vrai que le nouveau a déjà manifesté le désir de s'ingérer dans ma juridiction, mais je suis parvenu jusqu'ici à le contenir et je continuerai d'y parvenir. Vous vouliez que je vous explique ce cas. Il est aussi simple que tous les autres. Un capitaine a fait ce matin un rapport selon lequel cet homme, qui lui est affecté comme ordonnance et qui dort devant sa porte, s'était endormi à son poste. En effet, chaque fois que sonne l'heure, il a à se lever et à saluer devant la porte du capitaine. Devoir qui n'a rien de pesant et qui est nécessaire, car l'homme doit rester dispo, tant pour monter la garde que pour servir. La nuit dernière, le capitaine a voulu vérifier si l'ordonnance faisait son devoir. Il a ouvert la porte à 2 heures pile, et l'a trouvé affalé en train de dormir. Il est allé chercher sa cravache et l'en a frappé au visage. Or, au lieu de se lever et de demander pardon, l'homme a saisi son maître par les jambes, l'a secoué et lui a crié « Jette cette cravache ou je te bouffe ». Voilà les faits. Le capitaine est venu me trouver voilà une heure. J'ai noté ses déclarations et j'y ai aussitôt ajouté la sentence. Puis, j'ai fait mettre l'homme au fer. Tout cela fut très simple. Si j'avais commencé par convoquer l'homme et par l'interroger, cela n'aurait fait que mettre la pagaille. Il aurait menti. Si j'étais arrivé à réfuter ses mensonges, il les aurait remplacés par d'autres, et ainsi de suite. Tandis que maintenant, je le tiens et je ne le lâcherai pas. Est-ce qu'à présent tout est expliqué ? Mais le temps passe, et l'exécution devrait déjà avoir commencé, et je n'ai pas encore fini d'expliquer l'appareil.
Salut à tous, vous êtes bien donc dans Vacarme en Réunion, et on écoutait le deuxième extrait, de la colonie pénitentiaire de Kafka. Voilà. Et tout de suite, on va retourner vers un petit entretien qu'on a eu à moins nombreux avec Jean-Marc Rouillant, où on lui posait quelques questions qui étaient plus orientées sur la question de comment résister à l'enfermement et donc nécessairement la question de l'évasion sous toutes ses formes. On l'écoute tout de suite.
J'avais entendu un truc que tu avais dit sur la prison où tu t'imposais un rythme qui était plus dur.
Ouais.
Que celui du. Parce qu'en fait, en détention, le temps, c'est la peine. La peine, c'est le temps. Mais il y a un rapport entre le temps et la peine, que si le temps qu'il faut tuer le temps.
Oui, c'est-à-dire, non, mais c'est clair que si tu te laisses emporter par la peine que tu as, si tu as une peine très longue, tu es mort. Donc il faut que tu organises, au cas où tu restes, mais souvent on reste. Au cas où tu restes, tu es obligé de dire, voilà, dans 5 ans je ferai ça, dans 10 ans je ferai ça. Et il y avait une chose, c'est que dans les prisons de haute sécurité, ils essaient de t'imposer leur rythme. Et la résistance, c'est de dire, bon, ben, tu veux m'imposer ton rythme, m'obligeant à me lever à 7 heures du matin, ben, moi je peux me lever à 6 heures du matin et je t'emmerde. Et à 6 heures du matin, chaque fois que tu ouvriras la porte, je serai en train de travailler. Et bien sûr, c'est conflictuel, mais très, c'est pas, ils gueulent pas quand ils te voient. C'est toi qui, c'est ta forme de résistance, quoi. C'est-à-dire, je serai plus fort que vous, quoi. Vous voulez me détruire, mais moi, je vais être plus fort que vous. Et c'est dans tous les actes quotidiens. Vous voulez pas que je fasse d'études, je n'en ferai pas, mais je vais être, je vais vous damer le pion sur autre chose. Donc les livres, tu vois, les livres, j'ai jamais demandé l'autorisation à l'administration pénitentiaire de publier un livre. Je l'ai tout fait dans un acte de résistance, c'est-à-dire je sortais clandestinement les disquettes, mais ça c'est toujours en rapport dans la conflictualité. On te dit mais pourquoi tu as tenu ? C'est que quand tu es toujours en rapport de guerre, si t'es pas éliminé, tu gardes tes idées vraiment claires et tu sais très bien que t'as en face un système prédateur, tu le vois, t'as un système de destruction, et pour lui échapper, il faut être fort. Donc tu dois pas jamais baisser les bras.
Et du coup, comment t'échappes? Aujourd'hui, les techniques de torture, d'interrogatoire, etc., elles imposent l'enfermement, je parle en tout cas pour ce qui est de la prison de Bouvray, etc., elles imposent sur une. Et en garde à vue, c'est aussi ça. Rapport au temps, où tu sais, t'es toujours, t'as un temps qui est imprévu. T'as pas de rêve fixe. Tu sais jamais quand tu mettras ta vue. Tu sais jamais. Et où on te coupe ton repère, on t'isole de la lumière pour pas que tu saches s'il fait jour ou s'il fait nuit.
C'est la privation sensorielle.
C'est ça, on te sépare de tes.
C'est ce qu'ils ont essayé sur les prisonniers allemands au début des années 70, c'est-à-dire ils leur imposaient des cellules sans fenêtres, avec une aération, un air pulsé, et la lumière nuit et jour. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu perds ta... Tu sais pas si c'est... à quelle heure il est, ils changeaient les horaires de repas en permanence, ils n'avaient pas droit à des à des repères temporels mécaniques, et temporels mécaniques, c'est-à-dire des horloges ou des trucs comme ça. Donc, ils essaient de te rendre, parce qu'ils savent qu'un individu a besoin de repères, de points fixes pour organiser sa vie. Et quand j'étais dans certains mitas, que tu as à peu près une vie de cloporte, hein, un sous-sol, la freine, t'as une vie de cloporte. J'ai calculé au nombre d'efforts physiques, pompes, des trucs comme ça, à peu près quelle heure il était dans la journée, comment ça j'allais m'organiser, et jusqu'à l'épuisement de dormir. Plus tu dors, plus tu récupères. Donc il faut t'épuiser pour dormir. Il y a beaucoup de détenus qui se laissent aller. Par exemple, je parle des jeunes mineurs isolés. Eux, ils commencent, tu sais, au tout début, ils arrivent, et ils regardent la télévision jusqu'à 4h du matin. Donc, si tu regardes la télévision jusqu'à 4h du matin, tu te lèves pas pour la promenade, la première promenade. Donc, tu perds le repère par rapport aux autres détenus. La deuxième nuit, ils regardaient que la télévision. Et après, ils dormaient le jour, etc., etc. Et au bout d'un moment, ils sortent plus de cellule. Mais ça, c'est de la destruction. Ça te détruit. Ne pas discuter avec des gens, parce qu'on est des animaux sociaux, et si tu perds les rapports sociaux directs, bah, tu disparais. L'erreur, c'est de penser qu'on peut humaniser la prison. C'est exactement l'erreur du mouvement altermondialiste quand il disait on peut humaniser le capital. On peut gérer nous-mêmes le capital. Non, le capitalisme, c'est un système d'exploitation et d'oppression. Et la prison, c'est un système de torture. On ne peut pas humaniser la torture, on ne peut pas humaniser l'exploitation. Soit on les détruit, soit ils nous détruisent. Ben, humaniser la prison, c'est pas possible. On peut éviter des suicides. Donc, tu arrives à un moment où on te dit on va te donner des draps en papier. Tu imagines dormir dans des draps en papier. Et tout ça simplement pour pas que tu te suicides, alors que tu as 1000 façons de te suicider en prison. Et se faire mettre à poil le premier soir, ça doit faire un sacré choc, tu vois. Mais ça, ils ne le changeront jamais. Tu comprends ? La prise de corps, c'est te mettre nu. C'est-à-dire te réduire à l'état de quelqu'un qui est sans défense. Parce que tu te retrouves nu devant 10 mecs qui sont super agressifs, tu t'apercevras que tu es sans défense, hein. Et eux, ils sont dans ce truc-là, c'est-à-dire prendre la possession de ton corps, c'est te réduire, tu n'es rien. Voilà. Mec, tu n'es rien. À partir de ce moment-là, à partir de ton écrou, tu n'es rien. On peut faire de toi ce qu'on veut. Et si on veut t'humilier, on t'humilie. Si on veut te tabasser, on te tabasse, et il nous arrivera rien. Et c'est dans chaque prison que j'ai connue, ça se passe toujours comme ça. Au moment où tu arrives dans la prison, ils veulent mettre le rapport de force en disant bon, si tu fais le con ici, ça va être ta fête. Nous, on a une histoire, on a une expérimentation. Et ils nous jugent extrêmement dangereux dans la propagation de notre expérience. Parce que c'est couper le mouvement. Parce que dans les années 90, ils ont permis au mouvement de se développer à la condition qu'il exprimait ouvertement son rejet de la violence. Que ça soit l'extrême gauche, que ça soit le mouvement autonome. C'est-à-dire, il fallait passer avec le néolibéralisme, toute politique acceptable et acceptée par le pouvoir devait se dissocier de sa mémoire de violence. Et aujourd'hui, c'est pratiquement impossible.
Ça, c'est les 90.
C'est les années 90, c'est-à-dire c'était les fourches codines. Tu veux faire de la politique, tu veux nous contester, t'as le droit, mais tu dis ouvertement que t'es contre la violence. Et ça, c'est en France, c'est nous, à travers nos procès, qui ont servi de dire, de poser le problème. Soit vous acceptez, soit vous serez traité comme ces mecs-là. C'est-à-dire, on va vous détruire. Donc, il y avait cette acceptation. Qu'il fallait sortir de toute idée de violence contre le système. Donc, il fallait que le système se réapproprie totalement l'usage de la violence. Parce qu'on y avait contesté ce monopole. On y avait contesté le fait d'être en permanente opposition avec un système, une structure, ça te permet d'être vigilant par rapport à ce qui se passe. Et tu sais, quand tu luttes, même si c'est qu'une grève de la faim, ça te permet de... Tu sais, quand tu es au fond de la vallée, tu vois pas l'autre côté. Et si tu luttes, tu t'élèves à un niveau, tu vois, ta perspective, elle change totalement. Lutter, ça te permet d'être en haut de la colline, de regarder de tous les côtés. Si tu es dans ton trou en disant non, mais il n'y a rien à faire, on est foutu, etc., etc., tu ne vas pas voir plus loin que la haie du voisin. Donc, c'est un processus dialectique. La lutte, c'est tu rentres quand il y a un conflit. Je te dirais même l'information en prison, même dans les pires QHS, tu arrives à être beaucoup plus informé que tu l'es à l'extérieur. Parce que tu es submergé de journaux, revues, livres, etc., etc. Et tu as le temps. Dehors, on n'a jamais le temps. Pour écouter 3 journaux à la télévision, moi, j'écoutais le matin, je me réveillais, j'écoutais le journal en espagnol, j'écoutais le journal italien, j'écoutais le journal français. Dehors, à l'extérieur, tu peux pas le faire, ça. Tu peux pas passer 3 quarts d'heure pendant que tu déjeunes à écouter toutes les informations en langue que tu connais. Donc tu fais la critique, tu vois où ils mentent, tu vois où quelles sont les nouvelles réellement importantes au niveau international. Donc c'est tout un travail de s'informer. En 2005, il y a eu un aspect de révolution, d'insurrection. Ils n'ont pas sorti les calages, pourtant ils en ont, mais ça aurait pu être un moment décisif.
Villiers-le-Bel,
et à Villiers-le-Bel, c'est un acte de guérilla. C'est ce que je leur dis. C'est vraiment un acte de guérilla. Vous avez tendu un piège avec des armes. Et ça, c'est typique de la guérilla.
Toi, t'as déjà essayé de te retirer de prison ou pas ?
Ça sera une réponse par la poésie pénitentiaire. Alors, compte tenu de la longueur de votre peine, c'est le titre, c'est placement, isolement, décision initiale. Donc, ça date de 2004. Alors, vous êtes placé à l'isolement et à Paris, alors que j'étais détenu à la maison. Suite à la réception d'informations en provenance des services de gendarmerie établissant une forte présomption que vous fassiez partie d'une équipe de plusieurs détenus sur le point de mettre à exécution un plan d'évasion avec complicité extérieure armée, ces informations ont été corroborées par la surveillance du personnel. A refusé à signer.
Salut à tous, vous êtes bien sur Radio Campus dans l'émission Vacarme en Réunion. L'émission des troublions contre la prison, mais pas que. Alors, puisque la plus belle des résistances qu'on puisse faire à la prison, c'est sans doute l'évasion, on va tout de suite écouter un bel hommage qui lui est fait à l'évasion, avec la lecture d'un poème de Boris Vian, qui s'appelle « L'évadé » et qui date de 1954. Ce poème est aussi un hommage à la vie, mais d'abord... À nouveau, on va écouter un petit extrait d'un film sur l'évasion et les bagnes de Cayenne. Ce film, c'est Papillon, de Franklin Schaffner, et qui date de 1973, un superbe film avec Dustin Hoffman et Steve McQueen.
Ce soir, pendant le concert, je serai là-bas. Mais il faut que j'y sois, c'est moi qui sers les rafraîchissements. Tu devrais venir avec nous, Louis. Tu devrais venir. Merci. Mais ma femme s'occupe de me faire sortir et sa lettre devrait m'être déjà parvenue. Écoute-moi. Si ta femme était ici, si t'étais à Paris avec tout ce pognon, combien tu paierais pour la voir revenir? Je donnerais tout ce que j'ai. Combien tu crois qu'elle paiera pour te récupérer? Tu devrais t'évader. Ce soir, Louis.
Il a dévalé la colline. Ses pas faisaient rouler les pierres. Là-haut, entre les 4 murs, la sirène chantait sans joie. Il respirait l'odeur des arbres. Avec son corps comme une forge, la lumière l'accompagnait et lui faisait danser son ombre. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il sautait à travers les herbes. Il accueillit 2 feuilles jaunes, gorgées de sève et de soleil. Les canons d'acier bleu crachaient de courtes flammes de feu sec. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il est arrivé près de l'eau, il y a plongé son visage, il riait de joie, il a bu. Pourvu qu'il me laisse le temps. Il s'est relevé pour sauter. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, il avait eu le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche deux feuilles gorgées de soleil. Le temps d'atteindre l'autre rive, le temps de rire aux assassins, le temps de courir vers la femme. Il avait eu le temps de vivre.
C'est une nuit conventionnelle. Un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Mais avec une petite cuillère, il faudrait être un peu naïf. La prison n'est pas un gruyère. Si au moins j'avais un canif.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche. 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Si vous goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout cage à jour. Une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le ragoût,
ça lui donnera du goût.
Et le poil dans la choucroute, moi franchement ça me dégoûte.
Filez avant que le jour se lève, si vous trouvez la fête. Conventionnel, un chien aboie, une chouette ulule. Les prisonniers dans leurs cellules rêvent de creuser un tunnel.
Je cherche sans y parvenir une position pour dormir.
Aboie le chien, ulule la chouette.
Je m'allume une cigarette. Imagine un cigare qui fume, une pâtisserie qui vole des tours. Une danseuse avec une plume dans la pièce montée des grands jours.
Pourvu d'un pistolet en sucre, doté de pièces en chocolat. Bonne à manger, pas pour le lucre.
Je les cacherai pas sous mon matelas.
Je vous fais porter une brioche fourrée avec une pioche. 10 mètres de corde environ dans la dinde au marron. Goûtez la mortadelle, n'avalez pas la pelle. Ce n'est pas tout cage à jour, une lime dans le pâté en croûte et dans le petit pot de beurre, une pince, monseigneur.
Dans la purée, pas de grumeaux,
seulement le chalumeau.
10 mètres de corde environ
dans la dinde au marron.
Un vilebrequin dans le...
Salut à tous, on écoutait Pièce montée des grands jours de Thomas Fersen avec Marie Trintignant sur l'album du même nom dans l'émission Vacarme en Réunion. Alors comme on a l'habitude de faire une boîte à outils vers la fin de l'émission et qu'aujourd'hui on traite de l'évasion, pas facile de faire une boîte à outils, mais on va essayer quand même, donc boîte à outils sur comment s'évader de prison et comme ça dépendra toujours des situations. Ce qu'on va faire là, c'est de prendre un exemple rocambolesque et puis de vous le raconter. Peut-être que ça fera briller les yeux. Et donc, cette évasion qu'on va vous raconter, c'est l'évasion d'Alcatraz en 1962 par Frank Morris. Il y avait un mec qui s'appelait Warren et puis il y avait les frères Anglin aussi qui ont participé à cette évasion au vol. Avec Sandy à côté de nous pour nous la raconter.
Merci Jimmy. Alors moi je vais vous raconter l'évasion mythique du 11 juin 62 de la prison d'Alcatraz. Pour ceux qui ne savent pas où c'est cette prison, en fait elle est dans la baie de San Francisco. Donc elle est entourée de courants marins très forts et d'une eau très très froide. C'est un peu à la prison dont normalement on ne s'évade pas. Et avec ma petite histoire, je vais vous prouver le contraire. Donc il y a de grands détenus qui étaient emprisonnés là-bas, comme Al Capone. Enfin, apparemment, beaucoup de grands braqueurs étaient là-bas parce que c'était un peu la prison voilà, pour les plus dangereux, on va dire. Donc le projet d'évasion, il réunit 4 détenus, comme vous l'a dit Jimmy tout à l'heure. Donc il y a Frank Morris, il y a les frères Clarence, John Anglin et Allen West. Donc lui va manquer à l'évasion finalement pour un contretemps que je vous expliquerai par la suite. Ces 4 personnes, ils étaient emprisonnés à Alcatraz pour des braquages et des tentatives d'évasion. Donc ils vont préparer l'évasion pendant 2 ans. Il y a un vrai travail de fourmi là qui va se mettre en œuvre. Donc en fait, ils vont creuser le contour de la grille d'aération avec des lames de scie qu'ils avaient volées dans les ateliers. Et ils vont évacuer les gravats en les mettant dans leur poche. Et ils les jettent petit à petit dans la cour des promenades pour éviter qu'on remarque cette accumulation de gravats. Et à chaque fois, ils remplacent la grille pour pas se faire voir par les matons. De façon à pouvoir creuser tranquillement et faire croire qu'ils sont dans leur lit, en fait, ils sont fabriqués de fausses têtes avec du papier toilette mélangé à du savon pour faire croire à leur présence dans leur lit. Et ils ont même récupéré des cheveux chez le coiffeur pour pouvoir faire dépasser des cheveux du drap. Assez judicieux de leur part. Voilà. Après, ils vont fabriquer un radeau, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle est en plein milieu de l'eau, donc il ne suffisait pas de sortir de la prison, il fallait réussir à rejoindre la rive. Donc ils se font un radeau en volant une 50aine d'imperméables à la blanchisserie, qu'ils assemblent avec de la colle, et ils arrivent à récupérer un vieil accordéon dont ils vont se servir pour faire le gonfleur. Et ils ne s'en tirent pas trop mal, parce qu'au final, l'embarcation est triangulaire, et elle fait 1m80 de large sur 4m25 de long. Voilà. Donc là, le jour J arrive, c'est le 11 juin 62, ils sont prêts à s'évader, c'est décidé. Donc finalement, ils sont que 4 à partir, en fait, parce que Allen West, il n'a pas fait suffisamment de place autour de la grille pour pouvoir passer. Du coup, les 4 autres sont obligés de partir sans lui. Donc ils attendent l'extinction des feux à 21h30. Et là, c'est le moment qu'ils décident de s'élancer en dehors de leur cellule. Donc pour vous expliquer brièvement, en gros, ils grimpent un tuyau de 9 mètres, ils accèdent au toit. Ils traversent le toit en évitant la lumière des projecteurs. Ils descendent le long d'un chéneau sur une 15aine de mètres. Et là, ils foncent vers la rive au nord de l'île et ils embarquent sur leur radeau de fortune. Donc, il faut quand même se rendre compte que leur disparition, elle sera remarquée que le lendemain matin à 7h, à l'appel du lendemain matin. Donc, ils ont toute la nuit pour se sauver. Et ce qui marche bien parce qu'ils n'ont jamais été retrouvés. Voilà. Donc, pour faire une petite conclusion, on peut se dire qu'il y a toujours une faille et que, voilà, avec un peu de patience, d'idées, de ténacité, on arrive à s'en sortir. Donc cette prison, elle a été fermée suite à cette évasion. Et il semblerait qu'il y ait une communauté d'Indiens maintenant qui y vivent, mais je vais laisser Jimmy vous en parler plus précisément.
Ouais, alors, sur cette même île, dont la prison ferme en 63... Eh bien, 15 ans plus tard, précisément, des Indiens américains, donc de l'American Indian Movement, envahissent l'île à 78 au début, c'est leur nombre, et ils se retrouvent à plus de 600 au bout d'un mois. Ils écrivent une déclaration qui s'intitule « Nous tenons le rocher » et qui moque l'appropriation des terres américaines par les Blancs en leur proposant d'acheter l'île d'Alcatraz avec des perles. Et puis, ils mettent un peu en avant aussi la cruauté de la vie qui leur est réservée dans les réserves. Je cite une partie de cette déclaration, nous tenons le rocher là. Ils disent « Nous pensons que cet endroit présente toutes les caractéristiques d'une réserve indienne, puisque c'est une prison, puisqu'il n'y a pas d'eau, puisqu'il n'y a pas de service de santé, puisqu'il n'y a pas d'école, puisqu'il y a de la surpopulation, et ainsi de suite. » Il décline comme ça les différents aspects de l'île d'Alcatraz qui font penser au lieu qu'on leur laisse sur le territoire américain. Et donc, cette occupation, elle a un écho très très grand au sein des communautés indiennes. C'est un des grands moments de l'histoire des luttes des luttes de l'American Indian Movement. Et ils mettront, la fin de la police mettra un an et demi à déloger les occupants de l'île, puisqu'évidemment c'est un fort militaire, donc déloger des gens d'un fort militaire n'est pas chose simple. Et voilà, et donc c'est une belle histoire. Le récit qui a été fait avant de l'évader d'Alcatraz, on en trouve un film aussi dont j'ai parlé un peu plus tôt dans l'émission, un film de Don Siegel qui date de 1979. Donc juste après l'occupation par les Indiens de l'American Indian Movement. L'émission touche à son terme. Et on était content d'encore une fois pouvoir prendre le micro pour parler un peu de la prison et surtout des multiples résistances qui, à travers le temps, ont pu lui faire face. C'était donc Vacarme en Réunion sur Radio Campus et dans 15 jours, sans doute.
Salut.
Au revoir, merci à Jordan et Johnny.
À dans 15 jours.
On parie contre le sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. L'ombre vient effleurer nos songes. La lutte garde en éveil, alors je fonçais. Mon ciel est ouvert et mes pieds trop enracinés. Ma route est longue et trop de carrefours me font hésiter. Mon temps est parti, mon esprit glisse ailleurs. Au pied du vent, me chance en quête de récepteur. Dans la poussière, un écho. Et qui pourrait y croire si ce n'est moi à travers mes barreaux? J'ai pas le temps. J'ai pas le temps.
Mon esprit
glisse ailleurs. Pas le choix, faut.